Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Hello, bonjour à tous, à toutes, bienvenue dans les chroniques des médiathèques de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, Marjorie, Laurence, Pauline et moi-même, Marie-Pierre, partageons avec vous nos coups de cœur, romans, bandes dessinées, documentaires ou programmes. Tout de suite, je passe la parole à Marjorie.
Bonjour, je suis Marjorie et je vais vous présenter aujourd'hui une BD qui s'intitule « La sirène des pompiers » d'Hubert et de Zanzime. Elle a d'abord été publiée en 2006 et vient tout juste d'être rééditée suite à la disparition du scénariste Hubert l'année dernière. C'est vrai qu'en 2020 est sorti Podom, imaginé par les mêmes auteurs. Cette BD a effectivement connu un succès mérité et a été plusieurs fois récompensée par des prix prestigieux. J'annonce tout de suite la couleur pour ceux qui connaîtraient et qui auraient lu Podom. Le scénario de La sirène des pompiers est moins abouti, mais on retrouve toujours leur univers plein de finesse, d'intelligence et d'humour. Alors il est vrai qu'au début de ma chronique, j'ai évoqué une sirène. Une sirène ? Oui, vous savez, cette créature légendaire, mi-femme, mi-poisson, qui chante pour envoûter les marins, qui, désorientés par ses chants, brisent leurs bateaux sur les récifs. Mais alors, pourquoi les auteurs parlent-ils de la sirène des pompiers ? Une sirène passe ! Et oui, je vous ai parlé d'une vraie sirène, donc j'imagine à travers la radio vos yeux étonnés. Et je pense que vous vous dites, mais qu'est-ce que viennent bien faire ces pompiers dans cette histoire de sirène ? Des pompiers sauveurs de sirènes ? Là, pour le coup, je ne vous en dévoilerai pas plus. Mais cela ne m'empêche pas de vous dire que cette sirène vient de Bretagne. Elle trouve qu'elle chante suffisamment faux. Elle n'a jamais éprouvé de plaisir à charmer les marins. Elle décide donc de changer de vie. Elle remonte la Seine jusqu'à Paris. En passant sous un pont, elle sauve un jeune artiste qui a décidé de se suicider en se jetant à l'eau. En voyant cette belle sirène, le peintre suicidaire décide sur le champ de faire son portrait. Et là, c'est un coup de génie. Le tableau de Gustave Gélinet, « La sirène au rocher » est reconnu comme une œuvre majeure. Pourtant, un an auparavant, le critique d'art Fulmel avait qualifié le peintre de « barbouilleur ayant moins d'imagination qu'un tabouret ». Fulmel fulmine et se rend incognito dans l'atelier du peintre. Et là, stupéfaction, Gélinet héberge une sirène. Frédéric Letellier, alias Zanzime, dessine une belle sirène très sensuelle avec une cambrure de rein absolument impressionnante. Hubert, lui, concocte de savoureux dialogues qui nous plongent dans les arcanes du marché de l'art du XIXe siècle. Sa sirène tient même des propos qui ne sont pas dénués d'une certaine modernité pour l'époque. Elle est certes une sirène, mais elle ne veut pas devenir une potiche. Voilà, je vous ai présenté une BD, La sirène des pompiers, d'Hubert et de Zanzime, que vous pouvez emprunter à la médiathèque Vaillant. Je laisse maintenant la parole à Pauline. À bientôt, au revoir.
Merci Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous quand planter un groseillier ? Ou comment faire se multiplier les plantes que vous aimez ? Comment éloigner les pucerons ou les gastéropodes de votre jardin ? Et savez-vous comment les fleurs donnent-elles des fruits ? D'ailleurs, vous savez ce que c'est, vous, exactement ? Une fleur ? Aujourd'hui, je vous emmène au jardin, grâce à un magnifique album documentaire d'Emma Giuliani, graphiste de talent et auteur de plusieurs albums jeunesse que je vous invite à découvrir. Au jardin, c'est un grand livre pour les enfants et leurs parents, aux belles illustrations très graphiques. C'est aussi un album ludique, grâce à ses nombreux rabats à soulever à chaque double page. Le livre fonctionne par saison, nous montrant ce qu'on peut faire et voir au jardin, préparer et protéger la terre l'hiver, puis observer les premiers signes de l'arrivée du printemps avant de réaliser nos premiers semis. Alternant conseils pratiques pour jardiner et informations sur différentes variétés de plantes, fleurs, légumes, par exemple les tomates, les choux raves. Le livre nous renseigne aussi sur le fonctionnement du cycle de l'eau, la montée de sève, la pollinisation des fleurs. Alors maintenant, un court extrait. Le début de l'été. Quel bonheur de profiter du jardin au mois de juin. La douceur de l'air, l'odeur de l'herbe coupée, le goût acidulé des fraises et des cerises donne le sourire aux jardiniers. Alors, je vous invite à découvrir ce très bel album disponible à la médiathèque Camus, à soulever tous ces petits rabats pour découvrir par exemple comment faire des boutures. Qu'on soit déjà jardinier ou pas, ce livre nous donne envie de mettre les mains dans la terre, de regarder travailler les vers de terre et de croquer dans des tomates juteuses. Allez, tous au jardin! Et je passe la parole à Laurence.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio B. Je vous propose de me suivre, le temps de cette chronique, à la découverte de L'enfant de la prochaine aurore, dernier roman de Louise Erdrich, édité en janvier 2021 chez Albin Michel, dans la collection Terre d'Amérique. Quelques mots d'abord pour vous présenter Louise Erdrich. Elle est née en 1954 d'un père germano-américain et d'une mère amérindienne. C'est une auteure majeure de romans, de nouvelles et de poésie qui aborde depuis toujours dans ses œuvres le thème de l'identité culturelle. Bien que vivant aux États-Unis, elle est considérée comme l'une des voix de la culture indienne. L'enfant de la prochaine aurore, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, est la première incursion de l'auteur dans le domaine de la dystopie. C'est un roman qui décrit une société imaginaire, régie par un pouvoir autoritaire et qui se situe dans un avenir pas si lointain où le monde est devenu fou. Cédar, l'héroïne principale, est enceinte de quelques mois. D'origine indienne, elle a été adoptée par un couple aisé et aimant. Alors qu'elle s'apprête à devenir mère, elle cherche à savoir d'où elle vient et pourquoi elle a été abandonnée. Espérant des réponses à ses questions, elle part à la recherche de ses parents biologiques dans une Amérique déboussolée qui a basculé dans une dictature religieuse. Dans le texte, imaginé par Louise Erdrich, le contexte politique, écologique et sanitaire des États-Unis est épouvantable. Les frontières sont fermées, Internet est coupé, l'hiver n'existe plus et les humains subissent des dérèglements biologiques qui rendent les nouveau-nés peu viables. Dans ces circonstances, la fertilité devient un enjeu majeur pour le pouvoir en place qui traque les femmes enceintes et les bébés en bonne santé. Mais qu'advient-il des mères après l'accouchement et des bébés? Nul ne le sait. L'angoisse est partout dans la population et monte à chaque nouvelle disparition inexpliquée. Face à cet avenir incertain, Cédar décide de vivre dans la clandestinité et de cacher l'arrivée de son bébé. Tout au long de sa grossesse, elle rédige un journal intime adressé à son enfant à naître pour qu'il comprenne d'où il vient et comment était le monde avant. J'ai aimé ce roman singulier pour son écriture puissante, dramatique et parfois poétique, tout autant que pour sa réflexion sur le monde. Le récit engagé en faveur des femmes s'inspire de façon assumée de l'univers des Servantes écarlates de Margaret Atwood. Cette dimension du livre donne un côté glaçant à l'histoire et nous renvoie immanquablement à la question du choix que l'on ferait si nous vivions pareil cauchemar. La forme du journal intime pour raconter l'intrigue nous rapproche encore de l'héroïne, de ce qu'elle ressent, de son regard. Ce roman singulier pose la question des origines, de l'adoption, du lien filial, de l'amour maternel, mais aussi de la loyauté et du multiculturalisme. C'est aussi un très beau livre sur le libre arbitre féminin et sur l'injonction à vivre malgré tout, ce qui, en cette période de pandémie, résonne très fort dans notre actualité. L'enfant de la prochaine aurore de Louise Erdrich, édité aux éditions Albin Michel, est disponible à la médiathèque Camus dans le rayon adulte consacré aux littératures de l'imaginaire. Je vous laisse à présent en bonne compagnie avec Marie-Pierre pour découvrir son coup de cœur documentaire.
Merci Laurence. Eh bien alors voilà, pouvez-vous dire ce qui a manqué le plus à beaucoup d'entre nous ces derniers mois ? Certains sans doute répondront la rencontre. La rencontre, celle qui nous meut, qui nous fait être au monde, en somme le sel de la vie. La rencontre, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, qu'il s'agisse de personnes, mais aussi d'œuvres d'art, de livres, c'est ce dont Charles Pépin, philosophe et romancier, nous parle dans son ouvrage « La rencontre, une philosophie ». Qu'est-ce que la rencontre, la vraie ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Que faut-il pour qu'elle se produise ? Charles Pépin est un vulgarisateur. Il s'appuie sur les textes de philosophes, mais aussi sur le sens commun, dans une sorte de philosophie pratique qu'on pourrait associer aux livres de développement personnel. Il y apporte une assise scientifique érudite, faisant le lien entre les réflexions de Hegel, Bachelard ou Alain Badiou, tout en évoquant David Bowie ou Clint Eastwood. Il dit « Rencontrer une personne, c'est être bousculé, troublé. Le mot vient du vieux français « encontre », le fait de « heurter ». Deux êtres se heurtent et voient leur trajectoire modifiée. Mais une singularité peut très bien en croiser une autre sans être troublé. C'est parce qu'il n'y a pas rencontre là, mais simple croisement. L'idée que la rencontre est ce qui vous construit, qui vous permet de vous définir, c'est qu'elle oblige un retour à soi-même aussi. C'est quand on est face à l'autre, à sa différence, qu'on se perçoit autre. C'est en se confrontant au réel, au regard de l'autre, qu'on existe. Lors de la rencontre, on se retrouve face à l'altérité. Mais pour que cela fonctionne, la joie de la découverte repose aussi sur une reconnaissance, une familiarité. Une autre condition pour qu'advienne cette rencontre, c'est d'être à même de l'accueillir. Et il faut être capable d'improvisation pour se rendre disponible au surgissement de l'inconnu. C'est tout un art de lutter contre l'algorithme de la vie qui empêche de sortir de ce qu'on appelle ces bulles de contact, quel vilain mot, qui vous font rencontrer toujours les mêmes personnes. L'auteur égrène les rencontres mythiques ou ordinaires. À quoi tient la rencontre, en fait ? Ainsi, Christian Bobin évoquant le timbre de voix de Pierre Soulages, entendu pour la première fois au téléphone et qui lui a donné la certitude qu'ils allaient se rencontrer. Ou bien la rencontre fortuite entre Mick Jagger et Keith Richards sur un quai de gare. Ou bien ce que la rencontre avec Émilie du Châtelet a pu apporter à Voltaire. Cela peut être aussi la rencontre avec un professeur de philosophie, celle qui bouleversera le devenir d'un jeune lycéen, comme nous le raconte l'auteur. Charles Pépin ouvre le champ de la rencontre à l'art, à l'œuvre littéraire. Citant Belle du Seigneur, une autre histoire de rencontre, il développe plus longuement celle avec les romans d'Emmanuel Carrère, comme Le Royaume ou D'autres vies que la mienne, qui lui ont ouvert des portes, lui ont fait voir le monde avec d'autres yeux. Cette rencontre-là, avec le livre, c'est celle que vous pouvez partager quand vous tendez ce livre à un ami. « Lis ça, je suis sûre que tu vas aimer ». Vous goûtez par avance la joie de la découverte que vous allez transmettre. C'est ce que nous faisons, nous, bibliothécaires, c'est ce que font les libraires, et je vous garantis qu'on aime ça. Voilà, je vous parlais de la rencontre de Charles Pépin, et notre chronique est terminée. Je vous dis au plaisir de vous rencontrer tout l'été dans nos médiathèques. À bientôt.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !